Dans un instant, Jean-Pierre Filius, spécialiste du terrorisme et de l'islam contemporain, qui est resté en ligne avec nous. Et puis Claude Guibal, du service étranger, auteur d'Islamistan, un livre aux éditions Stock. Bonjour Claude.
Bonjour.
Avant d'avoir vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr, on va aller faire un tour du côté de Barcelone, retrouver Thibaut Lefebvre. Thibaut, vous êtes arrivé dans la nuit à Barcelone. Vous avez déjà couvert les attentats de Londres, de Nice. Barcelone ressemble ce matin à ces villes meurtries par le terrorisme ?
Écoutez, c'était plutôt surprenant parce que tout était jusqu'à maintenant assez calme avec des commerçants, quelques commerçants seulement qui essayaient de remettre sur pied leur kiosque et des passants finalement peu nombreux qui venaient déposer des roses et des bougies comme nous avons pu le voir au lendemain de l'attentat de Nice ou du Bataclan. Et puis d'un coup, les forces de l'ordre sont arrivées en grand nombre il y a quelques instants. Elles ont interpellé quatre hommes sans aucun lien apparent avec l'attaque d'hier après-midi. On sent que les policiers sont sur les dents, peut-être plus qu'ailleurs. Ils sont peut-être moins habitués que les policiers français à sécuriser une zone aussi vaste qu'une avenue. On rappelle que l'attaque d'hier s'est déroulée sur environ 600 mètres. L'attentat de Barcelone, vous l'avez répété, n'est pourtant pas sans rappeler celui de Nice. Même mode opératoire, même symbole. Las Ramblas à Barcelone, la promenade des Anglais à Nice. La différence, c'est peut-être le regard que portent beaucoup de Barcelonais sur Las Ramblas. Ils considèrent tout simplement que leur avenue est un lieu touristique, un espace saturés, qu'ils évitent lorsqu'ils se rendent au travail ou sortent le soir. Et beaucoup d'habitants, notamment du quartier populaire juste à côté, le quartier du Raval, ne se sentent par exemple pas directement visés par l'attaque d'hier. Ce n'était pas le cas à Nice. La promenade des Anglais était le lieu de balade dominicale d'une partie, disons-le, plutôt aisée des habitants. Et c'est sans doute ce qui explique que le recueillement n'est pour le moment pas aussi profond, pas aussi intense à Barcelone que ce que l'on avait pu vivre à Nice.
Merci Thibaut Lefebvre en direct de Barcelone. Claude Guibal, Thibaut Lefebvre vient de dresser un petit peu le portrait de Barcelone. On a l'impression, et on en a un petit peu discuté avec Jean-Pierre Filius, que l'Espagne s'est un peu endormie depuis mars 2004.
En fait, c'est un petit peu encore difficile de dire si l'Espagne s'est vraiment endormie, parce qu'il y a quand même eu ces derniers mois de nombreuses arrestations en Espagne, il y a quand même eu ces attentats déjoués, il y a eu notamment lors du réveillon du Nouvel An l'an dernier, des menaces d'attentats sur la Plaza del Sol, à la Puerta del Sol, pardon, à Madrid. Mais il faut se souvenir que l'Espagne, finalement, a connu ce genre de situation quand même dans le passé, en 2004, et où là, ça a été vraiment... L'Espagne n'avait pas vu venir du tout le terrorisme islamiste à l'époque, parce que, à l'époque, l'Espagne était concentrée sur l'ETA, elle connaissait le terrorisme au quotidien, mais celui de l'ETA, et en mars 2004, lorsqu'il y a eu ces attentats terribles à la gare d'Atocha, ça a été un choc pour les Espagnols qui, d'un coup, ont découvert, j'allais dire, leur quasi-ignorance des réseaux islamistes armés qui pouvaient exister dans le pays. Les attentats d'Atocha, je vous rappelle, c'est quand même 191 morts, presque 2000 blessés, 10 bombes qui explosent simultanément. Et depuis, l'Espagne a quand même développé un réseau de contre-terrorisme. Là, il y a eu de nombreux rajouts dans les effectifs des forces de police consacrées à l'antiterrorisme. Donc, il n'y avait pas une totale ignorance, mais c'est vrai, c'était pas encore chez eux.
Guy est en ligne avec nous. Guy, vous êtes du côté de Lyon. Posez votre question, vous avez votre question, et Jean-Pierre Filius pourra y répondre, ou Claude Guibal.
Bonjour à tous. Oui, alors écoutez, on constate les conséquences de ce terrorisme international, mais personne ne rappelle la cause principale, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre contre l'Irak par M. Bush. Et actuellement, les États-Unis, ils semblent délibérément s'en laver les mains. On laisse les choses se dérouler, l'Europe se débat comme elle peut, et puis eux, ils regardent ça d'un air, je veux pas dire, c'est même pas un air attristé, pour eux, c'est normal. Ils ont déclenché un bazar innommable à la surface du globe, et finalement... On n'en voit pas la fin, finalement. Voilà.
Jean-Pierre Filius, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, avant la revue de presse. Est-ce que c'est vraiment la guerre en Irak qui est à l'origine de tout ? comme le dit.
Il n'y a aucun doute que la catastrophique guerre globale contre la terreur, hein, entre guillemets, comme George W. Bush l'appelait, a implanté le terrorisme au cœur même du Moyen-Orient, dont il était absent. C'est la destruction sous les coups des États-Unis de l'État irakien, de l'armée irakienne en 2003, qui a permis à Al-Qaïda, qui jusque-là était dans des zones relativement périphériques, hein, Pakistan, Afghanistan, de s'implanter au cœur du Moyen-Orient, donc avec Al-Qaïda en Irak, qui est ensuite devenu l'État islamique, et aujourd'hui Daesh, donc il n'y a aucun doute. Mais je crois que, et je suis historien, donc la perspective historique m'importe, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est la responsabilité politique. Et cette responsabilité politique, elle est de l'ordre de la coalition, et le commandant en chef de la coalition, c'était hier Barack Obama, aujourd'hui Donald Trump. Je pense que tous les deux, même si on trouve l'un plus sympathique que l'autre, ont mené une politique calamiteuse qui nous a amené aujourd'hui à cette impasse où on prétend remporter des victoires militaires au Moyen-Orient qui n'ont aucun suivi politique, alors que le terrorisme se poursuit en Europe.
Et en même temps, Jean-Pierre Filliou, les pays européens ont suivi, la France a suivi aussi.
Je dirais que la France, elle a fait plus que suivre, elle a essayé de donner justement sous François Hollande une impulsion politique à cette coalition qui n'en avait pas et qui était une espèce d'opération militaire sans cerveau politique. Mais le dernier mot revenait à Barack Obama, qui était extrêmement sourcilleux sur sa décision. Mais en écho de l'échange que nous avions eu avant, on voit bien que l'Espagne n'est pas frappée à cause de sa politique. Donc il faut avoir une politique pour éviter d'être frappé par les terroristes et non prétendre que c'est à cause de la politique qu'on a ou qu'on n'a pas que les terroristes vous frappent. Et il est très important maintenant d'anticiper la prochaine attaque de Daesh et donc d'avoir cette collaboration, cette politique européenne, quitte à rallier les États-Unis à cette décision, mais en tout cas sans attendre que M. Trump ou un de ses conseillers se réveille enfin face à l'ampleur de cette menace sur le continent européen.
Je vois Claude Guibal abonder.
Oui, absolument, j'abonde dans le sens de Jean-Pierre Filliou. D'abord sur les causes, hein, de ces explosions, de cette montée du terrorisme. Et effectivement, quand Jean-Pierre Filliou parlait tout à l'heure des mêmes causes qui produisent les mêmes conséquences, ce qui s'est passé en Irak en 2003, ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Irak et en Syrie, on voit les mêmes mécanismes à l'épreuve et on crée là le terreau de futures actions terroristes dans le futur. Alors, en ce qui concerne la nécessité de prévenir les attentats terroristes, il est la mise en place d'un véritable réseau de coopération de renseignement militaire contre-terroristes en Europe est essentiel. On le voit, Jean-Pierre Filliou l'a souligné, les groupes terroristes agissent par opportunisme, par opportunité, quand c'est possible. Donc, c'est vraiment en termes de renseignement qu'on pourra essayer de faire avancer les choses. On le voit, on met aujourd'hui des plots de sécurisation pour empêcher l'accès à des rues, à des trottoirs, et malgré tout, les terroristes arrivent à frapper. Donc, c'est vraiment la coopération, elle existe déjà entre les États. La coopération, notamment entre l'Espagne et le Maroc, est plutôt très bonne, a permis de nombreuses interpellations, notamment ces derniers mois, mais il faut vraiment un vrai réseau beaucoup plus organisé au niveau européen.
Carole est en ligne avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour. Moi je voudrais savoir si justement l'Europe a décidé d'une action commune forte afin de lutter contre le terrorisme. Parce que petit à petit, il crée la peur chez nous, il gagne. Moi j'habite Lille, il n'y a pas eu de braderie l'an dernier. Il n'y en aura peut-être pas cette année.
Jean-Pierre Filliou.
Alors effectivement, et le cas de Lille est tout à fait emblématique, c'est la façon dont les terroristes, par leur seule menace, arrivent à changer notre mode de vie. Pour eux, c'est une grande victoire. Et c'est pourquoi je fais personnellement confiance aux Espagnols pour surmonter cette épreuve et demain retourner dans les terrasses, peut-être pas aux Ramblas, mais montrer que la vie continue. Mais au-delà de ce qui est une réaction des sociétés, des citoyens, hein, qui ne veulent pas se faire imposer des contraintes par les terroristes, il y a effectivement cette question de l'Europe. Alors l'Europe, elle a un peu avancé, elle a un coordinateur pour le terrorisme qui est excellent, le Belge Gilles de Kerckhove. Elle a maintenant enfin la possibilité d'identifier les arrivées sur les différents aéroports européens pour que les services soient prévenus dans les différents pays concernés. Mais on est très loin d'une action coordonnée. Je l'ai dit, il faudrait une action en termes de justice, un parquet terroriste anti-européen. Et puis, il faut quand même dire la vérité. Quels que soient les échanges de renseignements entre les différents services, un service de renseignement, par définition, il est un peu possessif sur les données et les informations et surtout les sources qu'il détient. Donc, le partage n'est sûrement pas optimal. Je rappellerai que le meurtrier du marché de Noël de Berlin en décembre dernier avait pu traverser une bonne partie de l'Europe, y compris la France, avant d'être assassiné en Italie. Donc ça pose de très gros problèmes en termes de coordination européenne, et je ne crois pas, malgré tous les efforts qui ont été faits, que nous soyons au niveau. Et le fait qu'au Moyen-Orient, la coordination soit aux mains des États-Unis, effectivement fait que les Européens sont un peu déresponsabilisés.
Merci Jean-Pierre Filliu, spécialiste du terrorisme et de l'islam contemporain, d'avoir été avec nous en ligne. Merci à Claude Guibal du service étranger, auteur, je le rappelle, d'Islamistan aux éditions Stock. Merci